Vous écoutez RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, la France, le monde, le pouvoir dans les yeux d'Anne Sinclair. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous publiez donc Chronique d'une France blessée chez Grasset, 570 pages passionnantes qui retracent au jour le jour donc notre histoire contemporaine de l'été 2005 à février 2017.
2015,
pardon. Oui. Mais d'abord François Fillon, le seul qui a refusé de vous rencontrer dans ce livre. Il a expliqué ce midi donc qu'il ne céderait pas malgré une convocation afin d'être mis en examen. Il dénonce un assassinat politique. Vous diriez qu'il est dans une fuite en avant ?
Oui, je crois que ça me paraît clair. On entendait Alain Duhamel tout à l'heure qui expliquait que c'était en tout cas politiquement vraiment très mauvais pour lui. L'assassinat politique, ça me dérange un peu parce que ce qu'on appelle assassinat politique, c'est Jean Jaurès, Kennedy ou Anna Politkovskaya.
Évidemment.
C'est pas vraiment des problèmes judiciaires. D'ailleurs, où celui qui a des problèmes est aussi à l'origine. Donc, on ne va pas jouer sur assassinat ou suicide. Je pense que c'est toujours dangereux de politiser à ce point, en effet, ses ennuis, parce que maintenant, on ne pourra plus lui parler d'autre chose.
Comment se fait-il qu'il vous ait pas reçu ?
Bon, ça, je suppose, c'est parce qu'il n'avait pas envie, parce qu'il ne voulait sans doute pas être dans un livre qui sortirait, j'avais prévenu tous ceux que j'ai rencontrés, qui sortirait au moment de la campagne. Mmh. Donc ça, c'était sa liberté.
Dans le livre, vous écrivez, il y a plusieurs façons de lire les événements de ces presque deux ans, une succession de surprises venues écorcher durablement les tissus nationaux et internationaux, ou l'aboutissement de constantes qu'on a longtemps ignorées, qu'on a refusé de comprendre, car elles dérangent notre existence de société protégée. Vous allez plutôt dans quelle option ? Vous pensez qu'on a fermé les yeux trop longtemps ? Et ce qui arrive aujourd'hui, finalement, il y avait les prémices et on n'a pas voulu les voir ?
Oui, je pense, et c'est ça qui sous-tend le livre, parce que j'ai voulu en effet noter un peu au jour le jour les soubresauts qu'a traversé l'Europe, Brexit, l'Amérique, Trump, la France, en effet, dans ces soubresauts qui continuent encore aujourd'hui. Et ce qui sous-tend le livre, c'est une interrogation. Est-ce que ce sont, en effet, des secousses qui nous arrivent et qui sont classiques au moment de transformation politique ? Ou est-ce que ce que je pense, en effet, c'est en fait une fermentation qui existait depuis longtemps et, comme dans un volcan, on voit que l'Etna se réveille, la lave finit par sortir, alors qu'on avait essayé de mettre un couvercle.
On a l'impression à vous lire quand même que tous ces hommes et femmes politiques que vous connaissez bien, pour certains vous les avez même vus grandir, ils ne sont pas à l'auteur de la situation que vous décrivez. On a quand même ce sentiment-là.
Oui, je ne dirais pas ça. Je pense que, en effet, dans un monde troublé, il faut avoir quelque chose en plus. Je pense que François Hollande avait un bilan qui sera réévalué, parce que je crois qu'il est loin d'être négligeable, que c'est un homme de qualité, que c'est un homme intelligent, qui n'est pas un homme médiocre, que c'est un homme honnête. En ce moment,
ouais, c'est une vertu
précision.
Qui n'est pas neutre.
Mais c'est vrai qu'il n'a pas su emmener les Français. Il n'a pas su leur montrer le chemin. Il n'a pas su leur dire ce qu'il y avait à faire d'urgent pour prendre la situation en main, que ce soit en matière européenne, que ce soit en matière intérieure. Alors, quant aux autres, bah, écoutez, on assiste à une sorte de défilé, une sorte de lessivage des démocraties assez violentes.
Le dégagisme, le fameux dégagisme.
Oui, c'est vraiment un mot que je n'aime pas,
qui dit bien ce qu'il veut dire.
Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est ça. Mais c'est vrai partout. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis.
C'est vrai, vous dites, tous les candidats que vous avez rencontrés envisagent sérieusement, vous dites, ou avec une ironie, la victoire du Front National en 2017, ou dans les années à venir. Manuel Valls, qui vous reçoit dans la résidence secondaire des premiers ministres, vous dit, l'année prochaine, c'est Philippot qui fera l'honneur du jardin. Donc
oui.
Là, il était au deuxième degré, évidemment.
C'était une ironie très cruelle.
Évidemment, mais ça dit quelque chose.
Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a un véritable risque, danger, moi je l'appelle comme ça parce qu'évidemment, c'est ce que je crains, c'est que Marine Le Pen, qui est aujourd'hui entre 25 et 30%, puisse non seulement être très présente au deuxième tour, ça c'est déjà acquis, et c'est déjà acquis et presque intégré par la classe politique, qui ont déjà sont presque résignés à dire elle sera là et elle peut gagner au second. C'est pas ce que je souhaite.
Vous dites qu'elle peut gagner au second.
Oui,
ce fameux plafond de verre, elle peut l'exploser.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, plus rien n'est impossible. Si vous voulez, le matin où Trump a été élu, je me suis dit, d'abord, j'ai eu peur, et je l'écris, que c'était un monde nouveau, un monde dangereux, un monde d'incertitude, un monde avec un homme imprévisible, mais surtout que rien n'est impossible. Et vous, comme moi, je pense, personne ne pensait que les États-Unis auraient élu Donald Trump.
Donc Marine Le Pen, c'est possible. Vous l'avez rencontrée, Marine Le Pen, pendant l'entretien. Elle vous dit, elle vous fait d'une allusion. La dernière fois que nous sommes vus, c'était à la Trinité. J'avais 20 ans. Depuis, il s'est passé 2-3 choses pour vous et pour moi. Comment s'est passée la rencontre ? On se souvient, quand vous étiez à 7/7, vous refusiez, pour des raisons que vous assumiez, de recevoir le Front National. Robert Namias l'avait fait à votre place en recevant Jean-Marie Le Pen. Comment ça s'est passé, la rencontre ?
Écoutez, très professionnellement, je lui avais demandé rendez-vous parce que je pensais que c'était une actrice importante de la campagne électorale et que j'avais envie de la voir, comme j'ai demandé rendez-vous à tous les candidats ou à leurs entourages. Elle n'a pas joué. Elle n'a pas joué la connivence, mm-hmm. Elle n'a pas joué l'hostilité, elle n'a pas joué. Elle a été elle-même avec son lot de certitudes extraordinaires qui fait qu'on se dit une femme qui n'a aucun doute. Moi, ça m'intrigue et ça me rend inquiète.
Mais est-ce qu'en même temps qu'il y a des inquiétudes, elle vous a impressionné, Marine Le Pen ?
Oui, je pense qu'elle a un système clos. Et quand on entre dans le système, on est prisonnier du système. À partir du moment où elle démarre sur la souveraineté nationale, qu'elle décline sous tous les angles, c'est-à-dire de la fermeture des frontières à la fermeture face à l'immigration, aux protections générales, elle a son système
clos. C'est cohérent d'une certaine manière.
C'est sa cohérence.
C'était sa cohérence.
Simplement, cette cohérence se heurte à la réalité et serait catastrophique. Mais elle est en effet assez articulée, et on le sait bien, dans les débats, elle est forte, elle est très forte.
Face à elle, si on en croit les sondages au deuxième tour, mais les sondages, on verra bien, Emmanuel Macron, vous l'avez rencontré 2 fois.
Oui.
Il a de la séduction, il en a, il parle vite, vous écrivez, la machine tourne bien, il n'a pas le profil de l'homme politique moyen, il n'appartient pas au système, et ça se sent, force ou faiblesse, dites-vous. Alors force ou faiblesse, exemple.
On va le voir.
Mais selon vous, aujourd'hui, si vous
écoutez, je pense qu'il a... Il y a plusieurs choses. D'abord, il a fait preuve d'une audace extraordinaire et d'un pari qui, après tout, il est peut-être en train de gagner. Il a en plus bénéficié de toutes les chances possibles avec tous les compétiteurs autour de lui et face à lui qui se sont écroulés. Et par ailleurs, il a une force, en effet, qui n'est pas habituellement dans le jeu politique, qui est d'avoir une attitude, une pensée, ce que j'appellerais une pensée complexe. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre.
Il n'est pas binaire, quoi.
Il n'est pas binaire, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un qui soit président dise où il veut emmener. Alors, il a commencé la semaine dernière à le faire sur ses propositions économiques et sociales. Je crois que demain est prévu, en effet, le reste de son programme sur les thèmes régaliens. Et on va voir.
Il y en a un qui vous manque, c'est Manuel Valls. On sent bien que c'était votre candidat, pas forcément de cœur, de raison.
Oui, moi j'appartiens à une gauche social-démocrate, je m'en suis jamais cachée, et Manuel Valls la symbolisait. Simplement, je pense que c'est extrêmement difficile de passer de Matignon à la candidature, que ça, vraiment, personne n'a réussi à le faire, ni Chirac, ni Balladur, ni Jospin, et Manuel Valls s'est heurté exactement à la même chose.
Maintenant qu'il n'est pas là, vous n'allez peut-être pas voter Benoît Hamon, puisque vous dites un homme un peu sectaire, froid et très idéologue.
Non, c'est comme ça que je le pensais, et je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il était intéressant, cet homme. Il est intéressant parce qu'il a réfléchi au monde de demain. Alors, je ne suis pas sûre que les réponses qu'il apporte conviennent au monde qui s'avance, mais au moins, il a réfléchi sur la notion, comme Macron d'ailleurs, la notion de la transformation du travail.
Mais votre cœur, il va plutôt vers Hamon ou vers Macron ?
Ça, je vous dirais en sortant de l'isoloir.
Vous écrivez beaucoup de choses, vous pourriez
oui,
même le dire.
Oui, j'écris, mais pour l'instant, je regarde.
Vous regardez encore ?
Je regarde encore. Je pense qu'Hamon s'enferme un petit peu dans un dialogue à l'extrême gauche qui ne le sert pas, qu'il se coupe un peu d'une gauche social-démocrate, et c'est dommage du reste du PS. Et quant à Emmanuel Macron, eh ben, j'attends de voir comment il peut emmener. Il est un fait que le candidat qui sera face à Marine Le Pen aura évidemment mes préférences.
Plein d'autres choses dans le livre, notamment votre rencontre avec Nicolas Sarkozy à découvrir. Par ailleurs, pour conclure, demain au musée Mayol à Paris débute 21 rue de la Boétie, Picasso, Matisse, Braque, Léger, une expo dont vous êtes la marraine, adaptée de votre livre sur votre grand-père Paul Rosenberg qui réunit 60 toiles. Son histoire fait sens aujourd'hui, marchand d'art juif obligé de fuir aux États-Unis qui écrit une lettre de protestation à Pétain. Vous avez écrit sur lui en 2010. Aujourd'hui, avec l'actualité du moment, Ça a beaucoup de sens.
Oui, ça n'a rien à voir. C'était un hommage à mon grand-père qui maintenant prend forme sous forme d'une exposition dans un musée. Et pour un homme qui a hanté les musées toute sa vie, qui était un très grand amateur d'art et un promoteur de l'art moderne, se retrouver au musée, pour moi, c'est magnifique, c'est émouvant.
Merci beaucoup Anne Sinclair. Chronique d'une France blessée chez Grasset. Merci à vous.
Merci.